Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca pour notre deuxième édition de 2026. La première, pour ceux et celles qui l'ont écoutée, a été consacrée à notre traditionnelle revue de l'année, que vous pouvez écouter en balado si vous l'avez manqué. Aujourd'hui, on va donc revenir au format traditionnel avec moi, Marie-Ève, à l'animation, et mes deux acolytes, Simon et Mathieu. Bonjour à vous deux.
Salut, salut, ça va bien?
Bien sûr, et
bonjour,
vous?
Bonjour, bonjour.
Bonjour, prêt pour...
Pour plein d'informations très, très légères.
Oui, très légères, oui. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, les Apatrides Anonymes, c'est une revue bimensuelle des actualités nationales et internationales, principalement sur les questions migratoires, mais on aborde aussi les enjeux autochtones et d'autres thématiques incontournables comme la multiplication des régimes autoritaires et d'extrême droite, le racisme ordinaire et systémique, les dérives sécuritaires et les droits humains. Et pour nous et vous éviter de tomber dans le cynisme paralysant, on fait aussi la part belle au mouvement de résistance et de solidarité à travers le monde. Donc au programme aujourd'hui, on va quand même encore un petit peu revenir sur l'année 2025.
Ben oui.
Parce que ça il s'en est passé des choses, Mathieu. Tu vas nous présenter le bilan migratoire chiffré du Canada.
Oui, une partie.
Une partie. Moi, je vais vous présenter une partie aussi, celui des États-Unis. Tandis que Simon, lui, va se consacrer aux statistiques de quelques pays européens.
Oui, pays scandinaves surtout, et situation du journalisme Liberté de presse en 2025 aussi.
Dans le monde.
Dans le monde, pas seulement en Europe, là.
Super. Mathieu, toi, tu vas aussi nous présenter un autre bilan. Peu reluisant du gouvernement Legault sur le plan des relations avec les peuples autochtones.
Oui, les représentants autochtones ont fait leur bilan de Legault, sept ans et quelques, et c'est
exact,
pas très reluisant.
De ses deux mandats.
Ouais.
Tu vas nous faire aussi le point sur la situation des populations kurdes en Syrie.
Ouais, ça
pas très
pas
reluisant non plus.
Ouais.
On va faire également le tour des actualités sur l'immigration au Québec avec Simon.
Ça va très bien, des délais de 50-55 ans pour vrai, dans certaines demandes.
Liberté 55, peut-être qu'on va avoir nos papiers une fois à la retraite.
Cimetière 55.
Puis moi, je vais vous présenter quelques brèves en lien avec la police, les prisons et les fachos. Et pour clore l'émission, ça va se faire avec... notre agenda antiraciste. Donc, préparez-vous, on commence ça dans quelques secondes. Les plus récents chiffres de Statistique Canada en matière d'incarcération sont sortis et on ne sera pas surpris mais consterné d'apprendre que les adultes autochtones ont été incarcérés à un taux 10 fois supérieur à celui des adultes non autochtones dans 6 provinces canadiennes. Ça, c'est les chiffres pour 2023-2024. Soit les 6 provinces concernées, c'est la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, la Saskatchewan et l'Alberta. Dans le détail, les adultes autochtones représentaient 33,2% de la population carcérale dans ces provinces-là, alors qu'ils représentaient que 4,3% de la population adulte totale. Ils étaient incarcérés à un taux de 89 pour 10 000 habitants en moyenne, comparativement à 8 pour 10 000 chez les adultes non autochtones. Et enfin, 2,6% de la population adulte autochtone a été incarcérée à un moment ou un autre au cours de cette période-là. Et ce taux-là a plus que doublé pour atteindre 7,3% chez les hommes autochtones âgés de 35 à 44 ans. Le rapport indique aussi que la population noire, elle, était incarcérée à un taux 3 fois supérieur à celui de la population blanche en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Le rapport souligne aussi que les Noirs représentaient environ 13% de la population carcérale en moyenne dans ces trois provinces-là, alors qu'ils ne constituaient que 3,3% de la population adulte générale. Les experts juridiques, les défenseurs des droits des Autochtones et même Statistique Canada n'ont pas été étonnés par les résultats, comme vous et moi, j'imagine. qui, selon eux, mettent en lumière des problèmes systémiques qui persistent à cause de lois et de politiques et de pratiques coloniales à cause des traumatismes intergénérationnels, de politiques d'immigration discriminatoires et plus généralement du racisme. Le rapport souligne aussi que la surreprésentation était plus importante chez les femmes que chez les hommes. Les chercheurs ont également déterminé que la surreprésentation des adultes autochtones en détention a augmenté chaque année de 2019 à 2024, ce qui montre à quel point c'est un problème ancien et profondément enraciné, puisque le problème, au lieu de se résorber, il empire.
Mm-hmm.
Pour Eleanor Sunchild, qui est avocate CRI installée à Saskatoon, une transformation du fonctionnement du système de justice est nécessaire. Je termine avec une citation de Mme Sunchild. La situation ne s'améliorera pas tant que le gouvernement n'aura pas compris qu'il doit offrir une guérison réelle, concrète et significative aux Autochtones et leur donner les moyens d'y parvenir. Dans le système actuel, l'accent est mis sur la punition, la dissuasion et la dénonciation. On néglige la réhabilitation. Or, à mon sens, réhabilitation rime avec réconciliation.
Bien dit.
Mathieu, ça met la table pour toi.
Ben oui, bien sûr, bien sûr. On va continuer au niveau autochtone. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et là j'ai quand même tombé
Que vous êtes difficile là.
C'est compliqué. À l'annonce de la démission du premier ministre Legault, plusieurs représentants autochtones se sont exprimés sur le sujet. Nakusset, directrice du foyer pour femmes autochtones à Montréal, a déclaré c'est une excellente nouvelle. Sipi Flamand.
Qu'il s'en aille.
La démission. Sipi Flamand de Manawan, c'était nécessaire qu'il prenne une décision digne de ce nom, d'autant plus que le gouvernement caquiste n'a jamais reconnu l'existence du racisme systémique. Tous les chefs pointent la non-reconnaissance de ce racisme systémique, mais aussi de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, DNUDPA, dont on a parlé souvent. Francis Véropol de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a aussi rappelé que M. Legault avait pourtant souligné lors de sa première candidature l'importance de mettre en œuvre la dite déclaration. Le dossier du projet de loi 1, la loi constitutionnelle portée par le ministre de la Justice Simon Hollin-Barrette, était aussi un point de friction entre le gouvernement et les Autochtones. Le dossier du régime forestier a également fait couler beaucoup d'encre l'année passée, résultant à l'abandon du projet de loi 97.
Ouais.
On a parlé dans notre bilan. Donc, le chef de l'Assemblée des Premières Nations a tout de même tenu à pointer les projecteurs, vers les avancements portés par la CAQ, comme la loi 79 sur les enfants portés disparus et la signature de diverses ententes énergétiques et économiques. Le ton était différent de la part de Kateri Champagne-Jourdain, ministre de la Famille et seule autochtone au gouvernement. Sur les réseaux sociaux, elle a remercié François Legault pour la confiance qu'il lui a accordée au fil des ans. Sans commentaire.
Ouais, c'est ça, on va passer à un autre appel.
Les relations avaient pourtant bien commencé, rappelle Sébastien Brodeur-Girard, professeur à l'École d'études autochtones de l'UQAT, à la suite du dépôt du rapport Vient en 2019. Le gouvernement Legault avait présenté des excuses officielles aux Premières Nations et aux Inuits à l'Assemblée nationale pour les préjudices que les lois, les politiques et les services publics leur ont causés au fil des années. 6 ans plus tard, la majorité des appels à l'action de la Commission Vient n'ont pas encore été réalisés, comme le rappelait récemment le protecteur du citoyen. On n'a jamais senti que la relation avec les peuples autochtones était une priorité pour M. Legault, renchérit Martin Papillon, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ça devenait un enjeu seulement lorsque les Autochtones se mobilisaient ou lorsque ça créait des problèmes politiques, mais sinon c'était toujours quelque chose qui était secondaire. Alors qu'ailleurs au pays, soit au niveau fédéral ou provincial, il y a eu une prise de conscience de l'importance de s'adapter à la nouvelle réalité des développements juridiques au niveau autochtone. C'était pas le cas au Québec. François Legault semblait avoir la difficulté à voir les Premières Nations et les Inuits comme des interlocuteurs, notent les chercheurs. On voit les Autochtones comme des groupes d'intérêt, comme des citoyens qui font partie de la nation québécoise, mais on ne parle pas ici véritablement de nation à nation, soulignent donc les chercheurs.
Oui, puis aussi comme si c'était un groupe hétérogène, là, tu sais, genre les Autochtones.
Aussi, oui, tout à fait. La réconciliation ne faisait pas partie du vocabulaire de M. Legault, rajoutent les chercheurs. Aussi, la nation Atikamekw, avait proposé le principe de Joyce, qui proposait des solutions concrètes à la discrimination systémique dont les Autochtones font l'objet dans les organismes publics, notamment en santé et services sociaux. Mais encore une fois, le gouvernement Legault a ignoré cette possibilité. Dans les dossiers de consultation et d'accommodement, le gouvernement de Legault s'est attiré la grogne de la plupart des communautés autochtones Par exemple, la protection du caribou forestier, le projet Nordvolt, etc. L'État québécois a pour politique de ne pas reconnaître les droits ancestraux des peuples autochtones autrement que dans le cadre de la négociation de traités modernes. Le gouvernement Legault n'a pas fait grand-chose depuis 2018 pour faire évoluer cette situation. On le constate dans la négo du premier et seul projet de traité moderne au Québec depuis la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Les trois communautés innues du regroupement Patapan ont pourtant conclu une entente de principe en ce sens dès mars 2004 avec le Canada et le Québec. Et le gouvernement du Québec refuse dorénavant de s'engager à ratifier l'entente, donc depuis à peu près 2-3 ans.
Ça, on en avait parlé avec Nadir André aussi.
Exactement. Puis d'ailleurs, je reprends une chronique de Nadir André pour ce micro-là, en partie. Donc, fait que voilà le bilan très reluisant, comme tu disais tantôt, de Legault et de Lafrenière, hein, quand même, il faut le souligner, hein, Yann Lafrenière.
Ben oui, on l'a pas nommé.
Ministre des Affaires autochtones.
Mais qu'est-ce qui arrive avec la sécurisation culturelle, ça?
Le projet de loi avait été adopté, mais il était insatisfaisant pour les Autochtones. Il y avait quelques petits trucs, mais c'était vraiment... Là, on en avait parlé à l'émission.
Oui, c'est ça.
Il a été adopté. Est-ce qu'il est appliqué? Il y a eu des formations, il y a eu des choses dans le système de santé, entre autres.
Oui, excusez, ça a comme...
ça a coupé sec. Ben oui, je disais qu'il y avait eu quelques petites formations, mais le projet de loi, écoute, on n'en entend jamais parler. Vraiment, comme ça n'avait pas existé.
Ben non, c'est ça. Fait que là, Mathieu, les chiffres en immigration au Canada, est-ce que...
Certains chiffres qui sont sortis en décembre et janvier. Donc, je commence avec environ 32 800 migrants menacés d'expulsion au Canada ont disparu dans la nature après avoir échappé à la surveillance des services frontaliers, selon Radio-Canada. Ben, selon l'agence des services frontaliers, finalement.
Ouais, c'est ça.
Ces données de 2025, qui englobent surtout des réfugiés déboutés, ne font pas sourciller l'organisation, convaincue que ses équipes répondent à la demande. On a effectué 22 100 renvois pour l'année 2025, ce qui constitue un record depuis la création de la SFC. Les données confirment donc que la moitié des 63 000 étrangers visés par un mandat d'expulsion étaient portés disparus en date du 31 août 2025. Mais portés disparus, on s'entend, là. Il y en a qui sont tournés par eux-mêmes.
Ben, c'est ça.
Il y en a qui sont, visibles.
Mais, ici, ou...
Exactement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, la situation est à peu près la même qu'en 2020. La situation était à peu près la même en 2020, ce qui avait valu à l'agence d'être blâmée par le vérificateur général pour la piètre qualité de ses données et les faiblesses de base dont elle faisait preuve. Donc, c'est un peu le même constat actuellement. Les motifs d'expulsion du Canada, donc dans les 22 000 qu'il y a eu, criminalité transfrontalière, 1 400 personnes, non-demandeurs d'asile vérifiés, 1 400, et demandeurs d'asile déboutés, 26 000. Ça, c'est, fait que là, sur le 32, il y a d'autres petites raisons, il y a d'autres petits chiffres pour d'autres raisons, mais c'est vraiment les demandeurs d'asile déboutés qui forment le gros des gens qui ont un mandat d'expulsion, finalement.
Ouais.
Sinon, aussi, plus de 10 000 mandats d'expulsion de l'Agence des services frontaliers du Canada sont actifs depuis plus d'un an, même si l'Agence déclare que les expulsions ont atteint un niveau record, comme on a dit, en 2025, avec 22 000 expulsions. Mais il y a 10 000 qui sont depuis plus d'un an sur les 32 000. En bref, l'Agence affirme qu'elle expulse environ 400 personnes par semaine du Canada et que de nouveaux mandats sont constamment ajoutés à la liste. Donc, voilà.
De nouveaux mandats d'expulsion.
Exactement. Ben ça, c'est sûr, c'est normal. Là. Puis il y en a qui sont plus là. Mais 400 par semaine, même si on dit qu'ils n'en font pas tant que ça, c'est 22 000 par année. 22 000 dans la dernière année, fais le calcul. Puis c'est à peu près ça.
Ouais.
Voilà.
C'est tout?
C'est tout.
Mon Dieu, c'était rapide.
Ben c'était les chiffres que j'ai pu obtenir sur les expulsions. C'était principalement ça que je voulais vous parler.
Bon, ben écoutez, tout à l'heure, on pourra essayer de voir, comparer un peu avec les États-Unis, dont je vais vous parler un peu plus tard dans l'émission.
Oui.
Pour l'instant, moi, je vous parle du SPVM. Plus ça change, plus c'est pareil avec eux autres. Pour une énième année consécutive, le service de police de Montréal a dépensé beaucoup plus d'argent que prévu en 2025 et demande, devinez, une augmentation importante de son budget pour 2026.
Ils vont dépasser encore, évidemment. Ouais, ouais.
Le SPVM, donc, a dépensé près de 885 millions de dollars en 2025, soit environ 60 millions ou 7,36% de plus que ce qui était prévu à son budget. Cette augmentation-là, c'est plus que la moyenne des déficits constants du service au cours des 10 dernières années, qui était à peu près à 5%. Période, ces 10 dernières années durant laquelle le budget a été augmenté de 202 millions.
Mm-hmm.
Pour 2026, le SPVM demande à la Ville un budget de 860 millions de dollars. Donc, c'est moins que ce qu'ils ont dépensé cette année, mais c'est plus que le budget qu'il y avait l'année passée.
Ouais, c'est ça.
De passage devant la Commission sur les finances et l'administration de Montréal dans le cadre de l'étude publique du budget 2026 de la Ville, Fadi Daguerre a justifié, comme chaque année, les dépassements de coûts par les heures supplémentaires nécessaires pour gérer des situations qui étaient hors de son contrôle. Et quel exemple est-ce qu'il a donné?
Ah, oh, les manifs.
Oui, mais lesquels?
Pour la
Palestine.
Voilà.
Ben oui, le génocide en Palestine qui aurait coûté à lui seul 12 millions de dollars juste en visibilité, OK?
Ouais.
C'est-à-dire pour envoyer des patrouilles dans certains quartiers pour que les citoyens et citoyennes sentent la présence des forces policières. Fait que 12 millions de dollars, ça, dans le fond, c'est 20% du dépassement du budget, qui
ouais.
était de 60 millions,
mm-hmm.
seulement pour de la visibilité. Fait qu'en tout cas, il me semble que c'était pas une priorité, là.
Non.
Ils ont juste à mettre des affiches avec le logo du SPVM un peu partout.
Oui, genre. Il y a Ted Rutland, auteur et professeur à l'Université Concordia et qui est spécialiste des enjeux urbains et des interventions policières au Canada. Ben lui, il rappelle dans un article de Francis Hébert Bernier paru dans Pivot que ce sont des choses qui affectent toutes les grandes villes, des événements non prévus, là,
ouais.
mais que seule la police de Montréal dépasse son budget chaque fois.
Ça fait des années, oui. Ouais. Ouais, ouais.
Il souligne aussi qu'il y a eu plus de manifestations en soutien à la Palestine à Toronto. Pourtant, à Toronto, la police n'a pas dépassé son budget. Et toujours selon lui, l'augmentation des dépenses policières reflète surtout le sous-financement d'autres approches pour assurer le bien-être des communautés. Il donne l'exemple là, d'une récente intervention près de l'UQAM, par exemple, où des dizaines de policiers ont été déployés pour régler une situation qui aurait pu être désamorcée par des civils spécialisés dans ce type de situation-là.
Ah oui, on a vu ça dans les médias, oui.
Mais il y a peut-être une lueur d'espoir. Pour la première fois, il y a deux élus d'Ensemble Montréal qui ont rappelé à Fadi Daguerre l'importance de respecter son budget. Je cite l'un d'eux. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de financement à Montréal pour les services policiers. Ce sont des montants importants. Ce à quoi le chef du SPVM a répondu que c'était très difficile à anticiper, évoquant encore une fois la possibilité de rebondissements géopolitiques sur la scène internationale. C'est vraiment n'importe quoi.
C'est la faute de l'actualité.
On se fout vraiment de la gueule du monde, là.
Ouais.
Bref.
Ouais.
Puis encore, Montréal reste aussi la ville où le budget de la police par habitant est le plus élevé au Canada.
Et le nombre de policiers par habitant dans les
aussi.
Grandes villes au Canada. Ouais, ouais.
Bref, là-dessus, on va aller écouter un peu de rap hip-hop du duo montréalais Floraison Tardive, dont le plus récent album Rado Capharnaüm est en 4e position du palmarès local de Choc. J'ai choisi la pièce « Voir que j'ai trouvée bien irrévérencieuse et sympathique.
Voir que je suis encore vivant, brisseau dans mes tympans. Voir que t'es toujours là, l'héroïne autour de mon bras. Voir que y'a des gens qui s'aiment, j'plus du genre qui s'aime et qui s'aime. Voir que y'a des gens qui foncent, qui s'écartent jamais quand ils tombent. Voir que j'pense qu'être un artiste c'est chialer sur tout juste parce que j'suis triste. Voir que j'peux pas pointer mes blèmes, mais j'ai subi quel Christ. Voir que malgré le foot. Être confortable c'est épuisant, c'est même parti depuis 10 ans. Je fais semblant de dire des choses importantes, mais au fond je reste un petit con qui agit intelligent. Gros, réaliste tu t'as quasi 30 ans, pourquoi tu baisses avec des quasi-enfants? Des fois faut juste que tu fermes ta gueule, t'écoutes pas les autres, c'est pour ça que tu te sens seul. T'es féministe seulement quand ça t'arrange, et trip ton bénéf sur mon F pis ça te dérange. T'es tanné que maman pleure, mais tu lui parles jamais avec le fond de ton cœur. Trop de rap à capelle et qui est des fifs, mais ça suce des bides pour quelques clics.
Tu racontes toujours que c'est mieux ailleurs, c'est trop. Parce qu'au final, ben tu restes ici. On normalise les nazis, back au pouvoir. We're all getting fucked. J'ai pris un screenshot de leur salut boudoir. Je me fais petit des couloirs. Les murs qui brûlent, mais servent à coudoir. Le joint est peu, je l'appelle notre histoire. L'espoir, je l'ai pas perdu, j'ai jamais eu. Un autre blanc qui check le monde au-dessus. Je plains le savoir qu'on n'aura jamais su. Malgré le...
C'était Floraison tardive et la pièce Voir que. C'est toujours aux Apatrides anonymes sur choc.ca. Et on retrouve Simon avec les actualités en immigration, les actualités actualité québécoise en immigration.
Voilà. Donc, quelques brèves locales pour vous. Je commence avec un élément que j'ai appris en faisant la recherche pour ce segment. On sait qu'il y a parfois des programmes spéciaux pour les ressortissants de certains pays en crise, en conflit militaire. L'un des plus récents, c'était le fiasco pour les réfugiés de Gaza. Il y a un article du Devoir dont le titre est « 55 ans d'attente pour une résidence permanente ». Ce n'est pas un titre sensationnaliste. Les différents programmes sont traités séparément, dépendamment de à quel pays d'origine on s'adresse. Et les délais de traitement varient effectivement de quelques mois à quelques décennies. Selon une circulaire fédérale, on indique que ça va de 12 à 600 mois.
De moins.
Ce serait dû à un manque d'effectifs qui ne s'est pas amélioré suite aux récentes coupes budgétaires. Le plus lent des programmes, c'est celui qui s'adresse aux réfugiés ukrainiens, 55 ans d'attente prévue. Celui qui s'adresse aux gens de Hong Kong qui fuyaient les répressions des dernières années, on est à 50 ans. Ce qui veut dire que dans bien des cas, beaucoup de demandeurs n'obtiendront jamais la résidence permanente de leur vivant. Et ça a une incidence sur le regroupement familial. Les demandeurs n'étant pas résidents permanents, ils ne sont pas éligibles au parrainage.
Mais c'est ça.
Ça implique aussi de devoir constamment renouveler les permis temporaires, faire toutes les démarches administratives et repayer les frais à chaque fois. Et pour ça aussi, il y a des délais qui peuvent faire en sorte que le nouveau permis n'arrive pas toujours avant la fin, avant l'expiration du permis précédent, créant toutes sortes de craques administratives. On peut se retrouver à ne pas avoir les fonds exigés dans son compte en banque au moment exact du renouvellement d'un papier. On peut se ramasser subitement sans couverture médicale de base, ne plus avoir le droit de travailler légalement. Les enfants peuvent se retrouver du jour au lendemain non admissibles au service de garde. Je pourrais multiplier les exemples comme ça assez longtemps. Donc, c'est une perspective très angoissante de savoir qu'on va probablement vivre comme ça pour le restant de ses jours, ou finalement être un temporaire permanent, pour utiliser l'expression d'un des avocats interviewés par Le Devoir. Je vous parle maintenant d'une agence de placement, l'agence Iris. Je change de sujet. L'agence Iris, trouvée coupable devant la CNSST d'exploitation financière et de tromperie sur une dizaine de personnes migrantes. Il y en a probablement plus, mais le jugement officiel, c'est sur une dizaine de personnes qui attendent toujours les compensations prévues pour salaires impayés et qui déplorent en même temps l'inaction du ministère fédéral des Migrations et du côté de Québec des normes du travail qui pourtant sont bien au courant du dossier. Immigration Canada serait aussi très lente à renouveler leur prolongation de séjour, ce qui les met à risque de perdre leur statut temporaire. L'agence IRIS, dont le permis de pratique a été révoqué, a aussi été trouvée coupable dans une affaire un peu complexe de location, entre guillemets, de travailleurs et de travailleuses qui pourtant détenaient des permis de travail fermés. Un permis de travail qui demeure à ce jour fermé pour la plupart d'entre eux, de ces travailleurs temporaires, ce qui les empêche de travailler actuellement et les plonge dans une grande précarité. Certains, heureusement, ont réussi à obtenir un permis ouvert. En plus du vol des salaires, on accuse l'agence de contrôle administratif total de la vie des employés, de les avoir envoyés vers des lieux de travail non autorisés, d'avoir confisqué leurs documents, de les avoir désinformés délibérément sur leur statut légal, d'avoir prodigué de mauvais conseils à l'immigration et d'avoir exigé des frais illégaux. Donc, c'est pas une agence exemplaire, disons.
Non.
Ben, l'agence de placement, à la base...
C'est pas l'éthique qui les étouffe, hein?
Exactement, non. Sinon, ils seraient morts, je pense. Bref, c'est via le CTTI, le Centre des travailleurs, travailleuses et immigrantes, qu'on apprend tout ça et que les employés de l'agence s'expriment. Il y a une conférence de presse qui a été organisée fin janvier pour remettre le dossier dans l'actualité. La CSN s'est jointe à la mobilisation et on entend augmenter la pression dans les mois à venir pour des permis de travail ouverts pour tous les plaignants et qu'ils obtiennent enfin l'argent qu'il leur est dû. Article beaucoup plus complet dans le site du CTI dont le titre est « Des permis qui enchaînent ». Parlant du CTI, petite suggestion de lecture, un texte de Maria Gabriela Agoudi dans laconverse.com dont le titre est « Femmes statut entre précarité, silence et dignité ». On ne sait pas combien de femmes sont sans statut au Canada, ça pourrait aller jusqu'à 500 ou 600 000. C'est un grand dossier rempli de données statistiques, d'informations pratiques, mais aussi de plusieurs témoignages de ces femmes de l'ombre qu'on côtoie tous les jours sans nécessairement le savoir. L'article est en bonne partie basé sur le rapport du CTI dont je recommande aussi la lecture et dont le titre est « Femmes sans statut en action, conditions de travail et santé » publié en décembre dernier, mais qui contient 47 pages. Alors l'article de Mme Agoudi dans laconverse.com est un bon résumé.
Ouais.
Je termine avec une dernière nouvelle, une apparence de bonne nouvelle, une première de la part de la CAQ dans ses tout derniers mois au pouvoir depuis 8 ans. Il y a donc maintenant un règlement officiel au niveau provincial qui encadre l'hébergement des travailleurs temporaires. Donc, vous allez voir, on part de très loin. Chaque chambre devra dorénavant avoir une superficie minimum. Je n'ai pas la superficie, mais c'était même pas réglementé. Chaque chambre devra loger au maximum 2 personnes et être dotée d'une porte et d'un espace de rangement verrouillable. La température devra être entre 20 et 26 degrés, donc chauffage et climatisation dans toutes les chambres. Pour chaque tranche de 5 travailleurs maximum, il faudra une toilette, un lavabo et une douche. On précise à l'eau chaude, donc on prend le soin de le préciser, c'est grave.
Ça veut dire que probablement que c'était pas fourni, ouais.
Exactement, ou que c'était pas dilué, mais rationné, disons.
Ouais.
Et cette douche devrait être à moins de 30 mètres des chambres. Les lits ne peuvent être partagés, chaque travailleur ayant droit à son propre lit et les lits superposés sont dorénavant interdits.
Bon.
Donc, ce sera le grand luxe. Donc, je disais bonne nouvelle, mais attention, il y a toujours un petit hic. Il y a des facteurs qui peuvent faire en sorte que certains employeurs auront jusqu'à 8 ans avant de devoir se conformer aux nouvelles normes. Par exemple, s'il y a eu des investissements récents, juste avant la publication du règlement. Donc, ce qui fait dire à plusieurs que si les conditions actuelles d'hébergement sont inacceptables, c'est maintenant qu'il faut corriger la situation et pas attendre 2034, surtout que ça fait des années qu'on exige un tel encadrement.
C'est un minimum, effectivement. Merci, Simon. Avant de te retrouver pour tes bilans internationaux, je vais continuer avec des chiffres en immigration aux États-Unis, parce que si malgré les actualités quotidiennes, vous pensez encore que les États-Unis sont une terre d'accueil pour les personnes migrantes, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles et à considérer les faits. Selon un rapport de la Brookings Institution, le solde net migratoire du pays a été négatif l'an dernier pour la première fois depuis un demi-siècle. C'est-à-dire, solde net, c'est le nombre de personnes qui ont quitté le pays de gré ou de force a été supérieur à celui des personnes qui y sont rentrées. En 2025, le solde net migratoire oscillerait entre moins 10 000 et moins 295 000. Je le sais, c'est vraiment gros comme marge d'erreur, mais je j'ai comme pas trop compris pourquoi c'est aussi grand.
Est-ce qu'on sait si c'est une drop soudaine ou si c'était une tendance?
C'est depuis Trump.
OK.
Environ 69 000 migrants auraient franchi légalement, essentiellement là, via une demande d'asile, la frontière américaine l'année passée, contre 1,41 million en 2024, donc méchante drop. L'immigration irrégulière, elle, se chiffrerait plutôt entre 22 000 et 39 000 personnes, contre près de 270 000 en 2024. Entre 210 000 et 405 000 personnes sont estimées avoir quitté volontairement le pays en 2025, alors qu'environ 312 000 personnes ont été expulsées en 2025, soit légèrement plus qu'en 2024, là, c'était 285 000. Les chercheurs soulignent que c'est surtout le modus operandi des expulsions qui a changé. En 2024, les renvois se faisaient la plupart du temps depuis la frontière, alors que maintenant, ils sont la conséquence des descentes de police de ICE dans les villes. Et ça risque pas de s'améliorer avec les nouvelles restrictions mises de l'avant par Trump. J'en fais juste une petite liste des plus récentes. En décembre, l'administration a annulé la loterie annuelle des cartes vertes et a donc privé 55 000 ressortissants étrangers d'un statut qui leur permet de travailler aux États-Unis. Depuis le 1er janvier, les ressortissants de 12 pays ne peuvent plus poser le pied sur le sol américain et ceux de 7 autres pays sont visés par des restrictions. Et à la mi-janvier, les États-Unis ont suspendu l'examen de toutes les demandes de visa en provenance de 75 pays, un veto qui touche 47 % de l'effectif de l'immigration dite légale. Et ça s'ajoute à la volonté du gouvernement d'éliminer le visa qui permet aux étudiants et étudiantes de rester 3 ans de plus aux États-Unis après l'obtention de leur diplôme, de réduire la durée de certains visas comme ceux des journalistes, de dénaturaliser les Américains d'origine somalienne et de supprimer le droit du sol pour les enfants nés aux États-Unis de parents étrangers. Bref, le durcissement politique est tel que les analystes du très progressiste Oxford Economics ont de nouveau revu à la baisse leurs prévisions migratoires, soit entre 200 000 et 560 000 entrées nettes légales de moins chaque année jusqu'à la fin du mandat de Trump. De telles statistiques auront des conséquences importantes sur la démographie du pays. La population totale du pays pourrait décliner de 400 000 personnes en 2026, du quasi jamais vu depuis la création des États-Unis, parce que pour constater une baisse, il faut revenir à 1918 avec les décès dus à la grippe espagnole. Et fait que, voilà.
Ouais, sachant que les budgets, les augmentations faramineuses du budget de ICE n'ont pas encore été octroyés, dépensés, ça risque d'être encore pire.
Hein? Effectivement. Alors, oui, Mathieu?
Est-ce que là-dedans, on compte les décès, les naissances, ou c'est vraiment juste le sol migratoire?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, dans le calcul.
La population, dans le calcul, non, ça inclut les décès-naissances.
Oui, aussi, donc, ouais, OK, ça va vraiment pas bien.
C'est ça, parce que, par exemple, pendant la COVID, la population avait pas baissé, même si...
L'immigration avait baissé, oui.
Même si l'immigration avait baissé, parce qu'il y avait quand même eu plus de naissances. Puis même chose pendant la Seconde Guerre mondiale, selon les chiffres que j'ai lus.
Merci.
Alors, Simon, on se tourne, on traverse l'Atlantique vers les pays scandinaves et quelques chiffres à propos des journalistes dans le monde.
Donc, un retour sur la difficile condition de journaliste telle que nous la rappelle Reporters sans frontières, comme à chaque année. En 2025, 67 journalistes ont été tués dans le monde dans l'exercice de leur fonction ou en raison de leur métier, avec presque la moitié, 29 seulement dans la bande de Gaza, assassinés par les forces israéliennes. Les représentants du gouvernement israélien affirment que de pratiquer le journalisme en zone de génocide, ils ne parlent pas en ces termes-là, là, ils disent « zone de combat ». Bref, selon eux, ça expose les travailleurs des médias à la mort, mais Anne Bocandé, directrice éditoriale de RFS, dénonce la tendance à dénigrer les journalistes pour justifier ces crimes, souvent en les qualifiant sans aucune preuve de terroristes. Donc, je la cite, « Il ne s'agit pas de balles perdues, c'est véritablement du ciblage de journalistes. Mmh. On en veut pour preuve le fait qu'Israël a souvent ciblé directement des immeubles où sont logés les bureaux de certains médias qui racontent une autre histoire que la propagande de guerre du Tsahal. » De manière plus générale, on décompte 503 journalistes actuellement détenus dans 47 pays, dont 121 en Chine seulement, 48 en Russie, 47 en Birmanie. On doit aussi ajouter à ces statistiques que 135 journalistes disparus, c'est-à-dire qu'on a perdu leur trace, mais on ne sait pas s'ils sont toujours en vie, s'ils sont détenus. Et ces disparitions sont parfois signalées depuis plus de 30 ans. Donc, ah, c'est ça,
j'allais demander si c'était arrivé cette année ou...
Non, puis j'ai pas la ventilation entre les nouvelles disparitions ouais, de 2025 ça. Par rapport à ce qui était déjà... Okay. Donc sinon, on a actuellement 20 journalistes pris en otage par des groupes paramilitaires, surtout en Syrie et au Yémen. Autre pays à souligner, le Mexique, avec 9 journalistes tués en 2025, le Soudan, qui en compte 4, et l'Ukraine, 3. Au niveau des détentions, en plus des voyous habituels, Chine, Russie, Birmanie, etc., il faut souligner le Bélarus et l'Azerbaïdjan, Biélorussie. qui font très mauvaise figure. RSF profite de son bilan annuel pour dénoncer l'impunité dont bénéficient sur la scène internationale les États détenteurs, tortionnaires ou assassins. Il y a des sanctions prévues dans le droit international envers ces gouvernements qui ne protègent pas ou qui carrément attaquent les journalistes, mais elles ne sont pratiquement jamais appliquées, sinon très rarement dans le cadre de joutes diplomatiques dont l'objet n'est pas nécessairement la protection de la presse.
Non.
On quitte l'attaque envers la presse. Je passe maintenant à certains chiffres en immigration en Suède et au Danemark, qui les deux, en 2025, ont diminué les octrois du statut de réfugié. Baisse historique au Danemark. Depuis 40 ans, c'est seulement la quatrième année où on est sous la barre des 1000 nouveaux réfugiés officiellement acceptés, avec seulement 839. 2024 était aussi sous les 1000, avec 860 nouveaux réfugiés. Parallèlement, c'est baisse. Le nombre de permis de travail temporaire, lui, il a explosé. Donc, on veut...
Ça suit la tendance mondiale, donc.
Oui, sauf au Québec et au Canada.
Ah non, c'est ça.
Donc, on veut continuer de pouvoir disposer d'une main-d'œuvre captive et jetable, oui. Plus du double de permis accordé en 10 ans avec un processus de révocation de permis qui a été, lui, accéléré. Mm-hmm. Trois autres faits d'armes récents du gouvernement danois dans son offensive contre l'immigration. D'abord, il souhaite, tout comme le Royaume-Uni ou l'Italie, externaliser la gestion des demandeurs d'asile. Donc, les faire emprisonner hors du territoire danois. Il y avait eu des discussions avec le Rwanda, puis ça ne s'est pas concrétisé, peut-être suite aux différents échecs
du Royaume-Uni, oui.
Oui, cette saga juridique. Mais les démarches se poursuivent avec d'autres potentiels sous-traitants. Ensuite, le gouvernement danois a lancé une initiative en mai dernier avec 8 autres pays européens pour que l'Union européenne réécrive sa Convention des droits de l'homme, surtout en matière d'immigration. Les autres pays sont, vous ne serez pas surpris, Autriche, Belgique, Estonie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne et République tchèque. Donc quand même une forte représentation de l'Europe de l'Est. Mm-hmm. Et dernièrement, exactement comme les Legault ou Roberge qui veulent, selon leurs termes, rendre le Québec le moins attractif possible, le gouvernement danois dit vouloir créer un environnement le plus négatif possible, et pas juste pour les futurs demandeurs à venir, mais aussi pour les personnes déjà présentes sur le territoire.
Ben voyons donc.
Avec, en plus des exemples que je viens de donner, saisie des biens personnels, qu'on appelle aussi la loi sur les bijoux. Je crois que tu en avais déjà parlé au Mathieu, qu'on justifie en disant qu'on veut saisir des biens de valeur pour les revendre, ce qui permettrait de rembourser une partie des frais administratifs occasionnés par la bureaucratie, l'hébergement de certains services. Pas sûr que ce soit légal, mais bref. On a aussi assisté à une réduction récente de l'accès aux services de base et finalement, on a créé il y a quelques années une catégorie d'asile temporaire, donc renouvelable au 1 an ou aux 2 ans, révocable sur la base de la situation dans le pays d'origine.
Évidemment.
Donc, il semble que ces révocations soient plutôt rares, mais qu'on se serve de cette mesure pour...
Ben, c'est une épée de Damoclès. Là.
Ben, c'est ça, pour rendre ça le moins attractif possible.
C'est ça,
on dirait que je suis... sur quels critères on expulserait vers le pays d'origine une personne à qui on a révoqué l'asile? C'est pas précisé, mais si on regarde différentes listes de pays jugés sûrs par certains États, on se rend compte que c'est probablement un processus arbitraire qui sera à la discrétion de tel ministre en fonction des sondages d'opinion ou d'un certain agenda politique. Juste pour préciser, Copenhague considère la Syrie comme un pays sécuritaire depuis 2019 et l'Afghanistan depuis 2022.
Bravo!
Quel jugement! Je ne sais pas si leur recommandation aux touristes danois dans ces deux pays se limite au classique « attention aux pickpockets dans les lieux fréquentés par les touristes ». Comme pour les révocations du statut de réfugié, les expulsions, il y en a somme toute assez peu, mais ça participe à cette volonté plus ou moins symbolique de rendre l'asile au Danemark moins attractive. On revient toujours à ça. Par exemple, on n'expulse pas vers la Syrie, puisque le Danemark ne peut expulser que vers des pays avec qui il entretient des relations diplomatiques, et il n'en a plus avec la Syrie depuis des années. On va plutôt détenir pour une période indéterminée les personnes à qui on a retiré le droit d'asile dans des centres de détention, les controversés centres de retour, qui sont isolés géographiquement et où on mêle les demandeurs d'asile aux criminels, parfois dans la même cellule. Je rappelle que le gouvernement de la première ministre, Mette Frederiksen, se dit social-démocrate, ce qui n'est pas le cas en Suède, où le gouvernement de Ulf Kristersson se positionne lui-même comme étant conservateur, ce qui est peut-être plus conforme à la réalité. Il est aussi en coalition avec l'extrême droite pour pouvoir former le gouvernement. Donc, des mesures semblables dans les deux pays. Stockholm, après un durcissement de ses politiques migratoires dans les dernières années, a constaté une baisse pour la seule année de 2025 de 30% des demandes d'asile, ce qui donne le plus faible nombre de demandes annuelles d'asile en 40 ans. 60% de baisse si on calcule à partir de 2022 avec l'arrivée au pouvoir de la droite et de l'extrême droite. Donc, baisse principalement attribuable aux quatre facteurs suivants. Durcissement des conditions d'obtention de la citoyenneté suédoise, forte augmentation de l'aide financière au retour des migrants dans leur pays d'origine. On est rendu à un montant de 30 000 euros. 8 000 réfugiés s'en sont prévalus en 2025. Importante restriction dans le regroupement familial et augmentation des expulsions de personnes migrantes en situation irrégulière qui a, selon le gouvernement, un effet dissuasif. Je reviens au changement dans les exigences pour obtenir la citoyenneté. Là, je suis toujours en Suède. Il faudra dorénavant avoir vécu non pas 5 ans, mais 8 ans en Suède. Alerte CAQ pour le reste. Avoir passé un test de connaissance de la société et des valeurs suédoises. J'ai failli dire québécoise. Et réussir un examen de la langue.
Ah, mais écoute.
Il y a une loi suédoise très controversée, dite loi sur la délation, proposée en 2024, qui prévoyait l'obligation pour tous les employés du secteur public de signaler les personnes en situation irrégulière à la police. Ça avait créé un tollé, mais suite à des décisions de justice, ça a quand même pu être adopté et appliqué, mais seulement à certains ministères et agences gouvernementales, avec une portée réduite, mais qui crée quand même des dommages.
Ouais.
Il y a des élections prévues en septembre 2026 en Suède. On verra si la coalition droite-extrême droite survit, mais si c'est le cas, il va falloir s'attendre à des mesures encore plus dures envers les personnes qui fuient la violence.
Bon, mais écoutez, les pays scandinaves...
J'ai pas parlé d'Islande, Finlande, Norvège. C'est des schémas semblables en un peu plus soft, je dirais.
Ouais. Ben, merci Simon. On va aller en musique avec un groupe de l'Alberta. Je vous donne plus d'infos au retour. Push the button. Activation. Who's the leader? Running the nation. Calls the shot. Ça y est, je suis fan.
De quoi?
Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur choc.ca. On vient d'entendre la pièce New Madness du duo albertain Homefront, qui est parue sur leur dernier album intitulé Watch It Die, qui figure en 21e position du palmarès international de choc. Ben oui, je sais, c'est pas international, mais...
C'est l'Alberta.
Dès que c'est hors Québec... Je cite un extrait de leur Bandcamp à propos de l'album. Un programme d'espoir qui parle de notre propre humanité, d'une renaissance dans un nouveau monde et du fait qu'aucun retour en arrière n'est possible.
C'est clair.
C'est une traduction de mon cru.
Ben oui.
Je poursuis avec enfin une bonne nouvelle sur le front de la lutte Antifa. Après plusieurs signalements par différentes associations, dont Utopia 56, dont on vous parle régulièrement, 10 militants britanniques du mouvement d'extrême droite Raise the Colors ont été interdits de séjour en France par le ministère de l'Intérieur à la mi-janvier. Puis « raise the colors », là, « colors », c'est pas pour les couleurs, genre la diversité, hein, c'est « colors », ça veut dire c'est…
Ton drapeau, là.
Voilà. La justice française avait ouvert une enquête préliminaire pour violence aggravée commise sur des migrants dans la nuit du 9 au 10 septembre près de Dunkerque, dans le nord de la France. Cette nuit-là, quatre hommes munis de drapeaux anglais et britanniques ont agressé verbalement et physiquement un groupe de migrants en leur disant qu'ils n'étaient pas les bienvenus en Angleterre et en volant certaines de leurs affaires. Une courte vidéo avait été publiée fin septembre sur X par le parti anti-Europe et xénophobe UKIP, sur laquelle on pouvait entendre les nazis ont affirmé, je cite, « Si les autorités ne protègent pas nos frontières, nous le ferons ». Sur les images, on voit des exilés recroquevillés sur le sol, certains sous des couvertures de survie, d'autres sous des couvertures normales, des duvets, ou d'autres encore portant des gilets de sauvetage. Des hommes vêtus de noir arrachent les couvertures en pointant une lampe de poche sur eux et en leur criant de quitter les lieux. Sur d'autres images publiées sur le compte Instagram du groupe, des militants patrouillent sur les plages pour soi-disant empêcher les traversées à la recherche de bateaux à détruire, rien de moins, ou encore en interpellant des migrants, parfois en se faisant passer pour des journalistes. Le mouvement Raise the Colors a aussi confronté régulièrement des membres d'associations de soutien aux migrants, dont ceux de Médecins sans frontières, les accusant de faire le jeu des passeurs et d'encourager des personnes à venir agresser des femmes au Royaume-Uni. Plus récemment, le groupe a brandi à plusieurs reprises sur X la menace d'une opération massive à venir en France dans le courant de l'année. Donc, mais bon, là, le ministère de l'Intérieur leur a servi leur propre médecine.
Ben oui, il a lâché la gauche un peu deux secondes.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, rentrez chez vous.
Bande de caves.
Sale facho. Alors, Mathieu, toi, parlant de sales fachos, ben là, c'est pas des fachos, mais quand même, ça va pas très bien pour les Kurdes en Syrie.
Ouais, ben ceux qui les agressent ou ceux qui les tassent, on pourrait dire qu'ils sont peut-être pas fachos, mais qu'ils sont assez...
pas des enfants de cœur.
Impérialistes, capitalistes, ouais, et souvent fondamentalistes. Donc, ça brasse beaucoup en Syrie. Ça s'est fait rapidement, quand même, dans les dernières semaines. Puis ça a pas été beaucoup couvert par les médias, en tout cas au Québec et au Canada, à peu près pas. Donc, je reviens le 25 janvier. Un corridor humanitaire a été ouvert vers Kobané, ville à majorité kurde du nord de la Syrie, cernée par l'armée syrienne, où un premier convoi de l'ONU est arrivé pour fournir une aide vitale aux déplacés qui ont fui les affrontements. Un cessez-le-feu entre Damas et les forces kurdes a été prolongé de 15 jours après que ces dernières ont cédé des pans entiers de territoire aux troupes gouvernementales décidées à reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire. Les habitants de Kobané ont déclaré qu'il manquait de nourriture, d'eau et d'électricité alors que la ville était submergée de personnes ayant fui l'avancée de l'armée syrienne. Cette ville, que les forces kurdes avaient libérée d'un long siège du groupe armé État islamique en 2015, était devenue un symbole en tant que première grande victoire contre les djihadistes et leur califat. Délogé d'Alep plus tôt en janvier après des combats meurtriers, puis des provinces à majorité arabe de Raqqa et Deir ez-Zor, récemment, les FDS, bras armés de l'administration autonome kurde, se sont repliés au cœur de leur zone à Asaké.
Toujours dans le nord, ça?
Oui, toujours dans le nord-nord-est. Le pouvoir islamiste de Damas réclame la dissolution des FDS, sont les forces démocratiques syriennes, tandis que Washington estime que leur mission initiale de lutte contre les djihadistes n'a plus de raison d'être avec l'émergence d'un État central fort et soutenu par les États-Unis à Damas. Les autorités syriennes ont affirmé que le cessez-le-feu avait été prolongé pour faciliter le transfert par les États-Unis de détenus du fameux groupe État islamique de Syrie vers l'Irak. L'armée américaine a dit vouloir transférer en Irak jusqu'à 7000 suspects d'EI, qui sont dans les fameux camps du nord-est de la Syrie, auparavant détenus par les combattants kurdes syriens. La trêve entre Damas et les FDS s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large qui vise à intégrer les institutions civiles et militaires kurdes à l'État syrien. Cet accord porterait un coup dur aux espoirs d'autonomie de cette minorité qui avait instauré une zone autonome dans le nord et le nord-est durant la guerre civile entre 2011 et 2024. Et là, le 30 janvier, Damas et les Kurdes annoncent un accord salué par Washington et Paris. Le gouvernement syrien et les Kurdes ont annoncé un accord sur l'intégration progressive des forces et de l'administration de la zone autonome kurde au sein de l'État syrien. Le texte prévoit que les forces de sécurité de Damas se déploient dans la zone autonome kurde. Il offre certaines concessions aux Kurdes, comme le fait que les FDS resteront regroupés au sein d'une division de l'armée syrienne. Bon. Par contre, les administrations de la zone autonome seront intégrées au sein des institutions de l'État syrien et les employés civils seront maintenus dans leurs fonctions. Une responsable kurde a indiqué que les États-Unis et la France étaient les garants de l'accord qu'ils avaient promis de surveiller le processus. On peut en douter un peu. Les intérêts sont forts.
Mais c'est pas une vraie autonomie, là, dans le
non, sens. Non, non, c'est pas une autonomie, c'est une intégration
plus
avec...
une façon de diluer...
Comme une espèce de privilège, là, peut-être. Pas de privilège, mais d'exception, disons. Ouais. Je cite un habitant de Kamilchi, qui est boutiquier, pour ton information. Nous n'avons pas confiance en ce gouvernement. Regardez ce qu'ils ont fait à Damas, à Soueda et sur la côte, en faisant référence au massacre d'Alaouit et de Druze après la prise du pouvoir par les islamistes, donc à Damas. Puis là, je voulais juste te citer un extrait d'un site français qui s'appelle Black Lines, un site anarchiste français avec une analyse progressiste, parce qu'on en a déjà parlé, puis c'est plus large que ça. Cette guerre visant à liquider la révolution du Rojava, c'est le nom de la région autonome, et ses fameuses unités de protection du peuple, les YPG, fait partie d'un plan coordonné par les puissances internationales de la région. Le 4 janvier, une réunion entre Israël et HTS, qui est le parti au pouvoir en Syrie, islamiste, avait lieu à Paris sous médiation des États-Unis.
Non.
Oui. Au même moment, les négociations étaient sur le point d'aboutir entre les FDS et HTS, le pouvoir. Celles-ci ont pris fin subitement et les attaques contre les quartiers autonomes kurdes d'Alep ont commencé. Il est clair qu'Israël et les États-Unis ont donné le feu vert à HTS et aux Turcs pour lancer leurs attaques. Le Rojava n'est pas seulement un territoire disputé par des puissances régionales et internationales. Il est devenu au fil des années une ligne de front idéologique. Ce qui s'y joue dépasse largement les frontières kurdes. C'est l'affrontement entre un projet politique émancipateur et une coalition de forces autoritaires, nationalistes et réactionnaires qui refusent l'existence même d'une alternative. Le Rojava est né dans le chaos de la guerre syrienne, là où l'effondrement de l'État central a ouvert un espace inattendu pour l'expérimentation politique. Plutôt que de reproduire un État-nation classique, ses habitants ont tenté de bâtir une société fondée sur l'autogestion, le pluralisme ethnique et religieux, l'égalité des genres et une démocratie locale radicale. Ce projet, imparfait et fragile, s'est construit sous les bombes, face à l'État islamique d'abord, puis face à des ennemis plus structurés, comme la Turquie, et tout aussi déterminés à le détruire. Car le Rojava représente une anomalie insupportable pour l'ordre actuel international.
Ouais, c'est ça, c'est le symbole que ça représente pour les États. Là.
Oui, oui.
Puis l'impérialisme.
Puis à l'inverse, pour tous les projets de gauche dans le monde qui
veulent avoir... Oui, c'est ça, un peu comme à l'époque du communisme, l'Occident.
Ou d'autres, comme l'Espagne dans les années 30, ou aussi. Des choses comme ça. Donc, ça. Fait que oui, Israël s'en est mêlé, les États-Unis, puis ont décidé qu'ils lâchaient les Kurdes. Puis bon, je trouve votre projet, il est bien le fun, là, mais... Hein?
Ça, c'est...
Rentrer dans le rang.
C'est
ouais.
ça.
Ouais.
Entendez-vous le bruit des casseroles?
Oh, il y a tout un agenda qui s'en vient, hein?
Parce que ça recommence à bouger pas mal sur le plan des mobilisations. Donc, ce sera un agenda quand même touffu. Puis je fais pas la liste d'épicerie de tous les événements, là, ce serait interminable. Mais ça commence fort ce samedi avec deux manifestations. D'abord à 12h30 devant les bureaux montréalais de Mathieu, t'en as parlé tantôt, l'Agence canadienne des services frontaliers, qui est au 1010 Saint-Antoine à Montréal. Un rassemblement appelé par Solidarité sans frontières sous le thème « Abat les attaques racistes contre les migrants et les migrantes ». Les revendications sont assez simples au nombre de deux. Un programme de régularisation massif, inclusif et continu qui accorde un statut permanent à toutes les personnes sans papier et à statut précaire, ainsi que la fin de l'entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. Je cite quand même l'appel, un extrait de l'appel que je trouve évocateur. Nous demandons à toutes les personnes qui ont un statut de s'opposer aux mesures et à la rhétorique anti-immigrante de leur gouvernement. Nous demandons à tous nos alliés de rejoindre notre lutte. Comme le montre l'exemple de Minneapolis, c'est en faisant front en tant que communauté que l'on peut résister au fascisme. Ne nous laissons pas diviser par les fausses catégories de bons et mauvais migrants que les gouvernements nous imposent. Ensemble et solidaires, nous sommes forts et fiers et nous ne les laisserons plus nous terroriser. Alors ça, c'est à 12h30 devant le 1010 Saint-Antoine à Montréal.
Cette semaine, ben, les débats, c'est non, ont commencé sur le projet de loi C12 ou C2, là.
Oui.
Oui, on commencé, donc ça pourrait être adopté dans les prochaines semaines.
Oui. Et ben après ça, après cette manif-là, ce rassemblement-là, on se déplace à 14h vers les bureaux du ministère de l'Immigration, le MIFI, sur le boulevard Saint-Laurent, entre Sainte-Catherine et René-Lévesque, pour un autre rassemblement, cette fois contre la suppression du PEC, on en a parlé tantôt, organisé par le collectif Québec, c'est nous aussi, et avec des syndicats aussi. Des rassemblements ont lieu simultanément dans d'autres villes au Québec, là, de Trois-Rivières à Rouyn-Noranda, en passant par Rimouski, fait que vous pouvez trouver toute l'information sur la page Facebook de l'événement. Vous avez juste à chercher pour un Québec tricoté serré, puis vous allez avoir la liste des villes participantes. Je poursuis avec trois événements en solidarité avec la Palestine. D'abord, deux lancements pour la sortie d'un livre qui s'intitule « La fierté de Gaza », paru en France aux éditions Terre de Feu, qui est une petite maison d'édition relativement nouvelle. Le premier des lancements, donc, a lieu à la librairie La Livrerie, pas très loin d'ici, sur Ontario, dans le centre-sud, le 11 février à 18h. Il s'agit d'une causerie avec l'auteur Emmanuel Drard et c'est animé par Myriam C. Belzile. Et le deuxième, c'est un 5 à 7 qui est organisé par la Maison Palestine à la Galerie Articule sur la rue Saint-Dupère, près du métro Rosemont, également en présence de l'auteur, et ça, c'est le 20 février. Quelques mots quand même sur le livre pour que vous fassiez une idée. L'auteur, de par ses engagements et ses liens avec cette région, a ressenti la nécessité de faire connaître les multiples facettes de ce qui fait la fierté de Gaza. La lumière est mise sur la créativité, l'ingéniosité, le courage, qualités qui permettent à ce peuple de résister depuis des décennies. Il nous invite à regarder Gaza autrement. Et le dernier événement en lien avec la Palestine a lieu à la microbrasserie Les Saint-Tavernes à Pointe-Saint-Charles. C'est le 14 février à partir de 17h. C'est donc à l'occasion de la Saint-Valentin. Mmh. Et donc, cet événement s'appelle « Palestine, mon amour oh. », n'est-ce pas? cet événement donc prend la forme de deux tables rondes sur la solidarité Québec-Palestine, qui vont être suivis d'un DJ set de funk arabe. C'est organisé par les Archives révolutionnaires et l'Alliance ouvrière, donc le 14 février à partir de 17h. Et je termine avec un concert bénéfice pour MAMO, Première Nation, le 12 février à la Toscadura, qui est au 4388 boulevard Saint-Laurent. Les portes ouvrent à 19h et le show commence à 20h. On demande là entre 10 et 25 $ pour y assister, mais évidemment, personne ne sera refusé là, d'entrer s'ils n'ont pas les fonds. C'est une soirée all ages sans alcool. Mmh. Au programme de la soirée, musique et performance des artistes Janaye Floyd, Nivi, Redskin Existence, Jaune Banane, Lézard, Belle Hirondelle, White Cone et Petit Méné. Et il va aussi y avoir la projection du court-métrage « Blocage » qui est réalisé par Amplifier Film, qui raconte un peu justement, là, ben, le mot le dit, là, les blocages qui ont eu lieu pour s'opposer à la loi, le projet de loi sur...
97.
C'est ça, 97, PL 97 sur le régime forestier. Je rappelle que MAMO Première Nation est une alliance formée en réponse à la réforme du régime forestier, comme je le disais, PL 97, qui a... été abandonné, oui, et on peut s'en réjouir, en septembre, il me semble.
Oui.
Mais évidemment, la lutte, c'est une victoire, mais la lutte continue là, contre l'expansion coloniale, parce que c'est loin d'être terminé.
Les forêts doivent être protégées encore.
Le projet colonial n'est pas terminé. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si ça vous tente de rester informé entre nos émissions, chose que je vous encourage à faire, allez visiter notre page FB qu'on essaie d'alimenter le plus possible avec des événements militants au Québec et des articles de médias européens. Je vous rappelle que nos balados sont aussi disponibles sur notre page du site de choc.ca ou encore sur www.apatridesanonymes.info. Je vous invite aussi à nous écrire, par exemple, pour nous proposer des sujets ou des entrevues à apatridesanonymes info@commercialresist.ca. Merci à Mathieu et Simon pour votre énergie contagieuse.
Oui, mais merci à toi pour ton animation enjouée et sérieuse en même temps.
Ben oui, ton énergie alimente la nôtre qui alimente la tienne.
C'est beau.
Ben oui, un beau trio.
J'aime mieux me faire contaminer par de l'énergie que par des méchants microbes. On se retrouve le 18 février donc pour notre prochain rendez-vous des Apatrides Anonymes. Et puis ben on va se laisser en musique avec une toute autre ambiance, disons, que les deux que vous avez entendus pendant l'émission. On va écouter la guitariste de jazz new-yorkaise Mary Halvorsen et c'est un morceau de son dernier album About Ghosts qui est paru l'été dernier. Elle est accompagnée de 7 autres musiciens au saxophone, à la trompette, au trombone, au vibraphone, à la basse et à la batterie. Et on va écouter la pièce Full of Neon. Alors,
à bientôt
et bonne soirée.